Bienvenue
sur
J'enrage
votre
émission lilloise.
Bonjour.
Vous êtes bien sûr J'enrage. On est le dimanche 15 décembre, il est 16h.
Et sur RCV.
Sur RCV, t'inquiète, je vais le dire. 99 FM. On est aujourd'hui avec Lémy Wonder. Salut.
Bonjour.
Donc je vais vous présenter rapidement le programme en première partie. On va laisser Lémy se présenter, parler de son blog, présenter éventuellement ses affinités féministes, enfin avec le féminisme plutôt, et quel féminisme éventuellement. Et en deuxième partie, on reviendra un peu au sur le sujet principal de ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'intersectionnalité et le rapport entre sexe et genre qui ne...
Sexe et race.
Sexe et... J'ai dit genre. Oui, pardon. Sexe et race, pardon, pardon. Sexe et race, effectivement. Et qui, on va le dire d'ores et déjà, n'est pas une superposition de différentes oppressions. On verra ça tout à l'heure.
Et bon, le terme intersectionnalité, c'est un petit peu un truc jargonnant, mais bon. Parce que du coup, ça peut faire un peu... on va vous parler de l'intersectionnalité.
Oui, c'est vrai.
Et on va... Mais en même temps, c'est ça, c'est difficile. Parce qu'on a pas... on a plusieurs sujets qui nous intéressent, et donc c'est un peu difficile de faire la synthèse de tout. Peut-être juste un truc que j'avais envie de préciser,
ouais,
c'est que enfin, peut-être par comment dire transparence, puisque on y a pas la dimension visuelle à la radio, à Genre Rage on est toutes blanches, voilà, donc du coup
oui.
C'est aussi comment dire on n'a pas une on part de ce privilège blanc, et donc on espère qu'on va pas dire de grosses conneries, et Clémy peut-être qu'elle nous réorientera un peu, on sait pas, enfin bref, on est là pour discuter tout ensemble de ça, mais je pense que c'est un geste important de
ouais,
préciser
ouais,
ça
d'accord.
au début. Voilà.
Okay. Bah vas-y, Clémentine.
Donc, moi, c'est Clémy Wonder. Donc, Clémentine, mon Clémy Wonder, c'est le nom, mon nom de blogueuse. D'ailleurs, mon blog, c'est clémywonder.com. Je commence tout de suite par la promo, comme ça, ça s'est réglé. donc, je me positionne effectivement comme féministe. Comme féministe de couleur, je mets des super grosses guillemets à ce terme-là, féministe racisée, féministe à moitié noire, je choisirais la définition, et effectivement je pense que ça va forcément influencer mes positionnements, même si je pense qu'on est quand même souvent d'accord avec les filles de Genre Rage en général. Voilà, bon, en fait j'ai commencé à écrire au début plus pour faire marrer mes copines quand on s'ennuyait toutes dans nos stages respectifs. Et puis, ben, petit à petit, parce que forcément, j'ai un engagement un peu féministe, mes écrits ont commencé de plus en plus à tourner autour des questions de sexe, de genre, de sexualité, et puis de sexisme ordinaire. Et puis, j'ai commencé à avoir des lecteurs, parce qu'il faut croire que c'est quand même un sujet que je ne suis pas la seule, enfin, par lequel je ne suis pas la seule à être concernée. Et voilà. Et depuis, je scribouille sur ces questions-là, tant bien que mal. Voilà.
Et nous, en fait, on t'a découvert par... je pense que tu tournes pas mal, parce qu'on t'a découvert par voix de blog. Donc,
mais j'ai la chance d'avoir des copines un peu connues, des copines de idéologie un peu connues, comme Morgane Merteuil, par exemple. Je pense que c'est à partir de là que vous m'avez connue, parce que forcément, j'ai une position... pro-pute et contre le projet de loi de pénalisation des clients. Et forcément, on a beaucoup échangé à ce sujet-là, et elle a donc reblogué certains de mes articles sur la question. Et si vous êtes encore en train de vous demander est-ce que c'est bien l'abolition, bah, bon, allez sur mon blog, vous saurez.
Bah justement, puisque tu parles d'être de pro-pute, peut-être t'es pas pro-pute, enfin pro-pute, ça voudrait dire je suis absolument dans l'absolu pour la prostitution, quoi. Mais
je suis pour la liberté, voilà, de se prostituer, pour les personnes qui le font par choix, sans qu'il y ait vraiment de facteurs extérieurs qui les y contraignent. Et après, je suis pour la possibilité des personnes qui n'ont pas d'autre choix, même si je pense que la notion de choix est vraiment très discutable, qu'elles puissent le faire dans les conditions les plus saines possibles ou les moins malsaines possibles. Et ce projet de loi, très concrètement, à part invisibiliser un peu plus et rendre un peu plus clandestine le trafic et les putes, c'est juste inutile.
On rappelle que le projet de loi, hein, c'est celui de la pénalisation du client,
voilà,
c'est-à-dire amende.
D'ailleurs, juste 10 secondes, parce que c'est vraiment pas le sujet de l'émission, mais en gros, ce projet de loi, ce qui était intéressant dans le projet, c'est à part le fait, enfin, cet objectif de démanteler les réseaux de prostitution, qui est quand même le problème de la prostitution. C'est pas l'idée en soi de l'idée en soi de prostitution, c'est un autre débat, je pense. Mais en gros, la chose qui était intéressante dans ce projet de loi, c'était de permettre une alternative à ces personnes qui ont été victimes de l'exploitation. Mm-hmm. Et seulement, si vous lisez un peu le projet, vous vous rendez compte qu'en fait, en gros, bah déjà, c'est des femmes qui sont sans papiers, qui sont illégalement sur le territoire français. Et en gros, elles ont 6 mois pour avoir du taf et une vie normale avant d'être expulsées, quoi. Donc,
et
merci,
380 euros de pension au cours de ces 6 mois. Voilà. Comme si on pouvait vivre avec 380 euros par mois.
Donc c'est pas vraiment comme s'il y avait une réelle alternative proposée.
Et ça crée une discrimination aussi de fait entre les prostituées sans papier et les prostituées qui ont la nationalité française, qui ne risquent que de se voir lever leur super subvention... allocation de 380 euros si elles reprennent, alors que pour les prostituées d'origine étrangère, c'est l'exclusion du territoire français si elles sont prises en train de se reprostituer. Donc c'est d'une violence quand même assez énorme, je trouve.
Voilà, on a juste fait un petit point sur ça. Peut-être donc tu peux nous parler de quel type de féminisme t'attire le plus, vers lequel tu as le plus d'affinité et quelles sont tes positions de manière générale, quoi.
Bah, féminisme plutôt queer, hein, je pense que c'est assez clair. Et sexe positif aussi. Et puis, bah oui, l'intersectionnalité, ce gros mot, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que quand j'ai commencé à vouloir militer en tant que féministe, je me suis rapprochée très, très, très brièvement de OLF et il y avait un discours, bon, déjà sur la sexualité, l'image de la femme qui me convenait pas forcément et puis surtout sur la laïcité, l'obligation de la laïcité que je trouvais très. Je trouvais qu'elle excluait une grosse partie quand même de la population. Et puis oui, sur le voile d'une manière générale, je pense qu'il y a quand même un gros discours islamophobe d'une manière générale en France. Et même si c'est pas du tout la position officielle d'OLF et des autres organismes féministes républicains, on est quand même toujours sur cette ambiguïté entre la laïcité et l'islamophobie. Est-ce que c'est vraiment la laïcité qu'on veut pour des raisons qu'on peut défendre, ou est-ce que c'est vraiment le voile et l'islam qui posent problème? Et si c'est ça me pose problème à moi. Voilà.
Ouais, c'est que la laïcité est utilisée comme injonction finalement à se laïciser et à se dévoiler et en réalité vise l'islam ouais. De toute façon, enfin.
Comme les fémines ont pu le dire de façon complètement explicite, l'islam c'est pas bien, super. Voilà, chez OLF c'est plus tacite, mais chez OLF et dans le féminisme républicain d'une manière générale c'est plus tacite, mais c'est quand même, je trouve, assez présent et ça me dérange beaucoup parce que je pense que les femmes musulmanes comme toutes les autres ont vraiment besoin du féminisme et que le fait de se sentir d'emblée discriminée, jugée et rejetée, et jugée parce qu'on porte le voile et que bon, c'est personnel les raisons qui peuvent mener une personne à porter le voile, et je pense qu'on devrait juste pas exclure sur cette base là et ça me pose vraiment problème, c'est trop fondamental pour moi pour pouvoir m'associer à ces mouvements féministes là.
Mais pour revenir oui, j'ai juste un peu les regards pour voir si je prenais pas la parole trop mais en fait ça me fait penser ce que tu dis finalement, républicanisme etc, et ce discours autour de l'islamophobie dont on a fait un sujet d'émission il y a quelques mois, hein, ça devait être en fin de mois d'août, et donc on en a déjà un petit peu parlé, donc on va peut-être pas s'éterniser, mais c'est vrai que après tout la question, comment dire, l'enjeu aujourd'hui en France de l'instrumentalisation du féminisme au profit du racisme concerne en premier plan et sur la scène politique les personnes musulmanes. Ouais. Donc c'est logique aussi qu'on en y revienne, et puis on est dans une urgence en fait. Et ça me rappelle, tout à l'heure j'évoquais, j'ai envie de reparler un peu au micro, parce que ça me rappelle une conversation dans un covoiturage ce matin qui m'a réveillée, parce qu'en fait j'avais pas beaucoup dormi, alors du coup j'ai été réveillée par ses propos. C'est vraiment un peu comme au milieu d'un cauchemar. Et en fait, il y avait la covoitureuse du devant qui commençait à parler. Elle avait fait de l'humanitaire, etc. Donc déjà, l'humanitaire, quand j'entends humanitaire, mon oreille se tend parce que j'entends à la place d'humanitaire plus moi, en tant qu'occidentale, je vais aller aider ces pauvres Africains, Asiatiques ou que sais-je. Et donc elle parlait de l'Arabie Saoudite, forcément. De toute façon, soit c'est l'Afghanistan, soit c'est l'Arabie Saoudite, hein, depuis Bush. On connaît la figure au poussoir. Et donc elle disait que en Arabie Saoudite, les femmes avec qui elle avait parlé disaient que c'était un choix de se voiler. Donc on revient toujours à cette question du choix, etc. Et au fait que au bout d'un moment, quand on est acculé, enfin, je veux pas donner une espèce de vérité à ça, mais donc c'est mon interprétation du dessus, mais quand on est acculé par un discours on peut dire les mots tels que les mots un discours impérialiste quand on est face à un discours impérialiste qui dit le voile est un signe d'oppression et qui se débarrasse de toutes les subtilités et complexités de cette affaire. Où je voulais en venir, mince. Voilà. Bref, donc elle disait, on est forcément au bout d'un moment amené à, par réaction, à le revendiquer d'autant plus. Enfin, je veux dire, tout simplement pour le légitimer, puisqu'on remet en cause cette légitimité. Donc, bien sûr, au bout d'un moment, on trouve des arguments. Donc, l'argument du choix est un argument qu'on entend assez souvent et qui est aussi présent dans le militantisme propute et donc la covoitureuse, j'y reviens, disait mais elle a pas pu choisir de se voiler, je veux dire c'est quelque chose qui est complètement biaisé, en plus elle disait oui moi je peux m'habiller comme elle veut alors que je les voyais toutes, elles étaient toutes avec leur voile machin, c'est pas une question de choix, enfin bon c'était hyper violent et en fait je me dis mais pourquoi tu parles de l'Arabie Saoudite alors qu'en fait au départ tu parlais de musulmanes de France, et alors donc je me dis mais c'est quoi cet amalgame quoi, et donc alors déjà c'est vrai que personnellement voilà la Arabie Saoudite je n'en parlerai pas puisque j'y suis pas allée et j'essaierai de pas de faire de d'amalgame entre les différents islams qui existent et surtout voilà, et là où je voulais en venir c'est que finalement donc moi je me réveille et je lui dis et pourquoi toi t'as, bon je l'ai pas dit de façon aussi agressive là je me le permets, mais pourquoi toi t'as choisi de porter des soutifs et des mini jupes, peut-être tu peux dire que tu l'as choisi entièrement, donc évidemment elle ne l'a pas relevé puisque donc après je me suis rendormie, fin de l'histoire. Mais donc bilan, là juste où je voulais en venir, c'est que finalement, cette question de racisme, à mon avis, doit être liée avec une remise en cause de nos réflexes impérialistes et colonialistes que l'on nourrit depuis notre enfance, à l'école française notamment et républicaine, étant donné que on est imprégné de ce colombanisme, c'est un néologisme. Hein, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En 1492, pardon. Bon, bref, là je dévie un petit peu. Mais voilà, l'idée c'est que j'avais juste envie de parler de l'impérialisme français, qui n'est pas le seul impérialisme, mais c'est celui que je connais puisque j'en hérite encore aujourd'hui. Mais voilà, du coup.
Trouve dans le féminisme républicain cette bonne intention de vouloir aider ces petites femmes sauvages et pas tellement occidentales à s'émanciper comme nous. Je mets des guillemets encore une fois, comme nous, femmes blanches françaises qui avons tout compris à la libération sexuelle, quoi.
Ouais, c'est ça. Et le problème repose sur le fait, on en avait parlé dans une émission, que justement ces personnes-là, enfin par exemple ta covoitureuse, se permet de parler à la place de des personnes directement concernées, quoi. C'est quand même un gros problème.
En plus, je précise, il y avait une personne musulmane à mes côtés. Qui n'était pas voilée, mais je veux dire, c'était d'autant plus violent.
Ouais. Alors, peut-être pour essayer de prendre un peu de recul et de voir les choses de manière moins, comment dire, factuelle, enfin, je ne sais pas comment le dire.
Anecdotique, voilà, d'une certaine manière, oui.
En gros, peut-être qu'on peut repartir sur comment on avait pensé l'émission dès le départ. C'est pas qu'on n'est pas parti dans tous les sens, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais non, t'inquiète pas. Mais en gros, sexe et race, regard croisé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'intersectionnalité? Et finalement, peut-être qu'on peut partir de ça. On a parlé de féminisme on parle de féminisme républicain depuis tout à l'heure. Peut-être qu'on pourrait commencer par ce morceau-là. Finalement, ça veut dire quoi? Croiser question de genre et question de race, est-ce que c'est pas finalement, vu qu'on a parlé de colonisation, décoloniser un certain féminisme qui est un féminisme qui se veut universaliste et qui prend par exemple comme, je pense que c'est sur ça que ça se base au départ le féminisme, c'est que toutes les femmes de toute la planète vivent les mêmes expériences de sexisme. Donc c'est pas que c'est une mauvaise intention au départ, mais je pense que c'est à partir de là qu'elles ont voulu, enfin que en gros ce type de féminisme a universalisé l'expérience femme, et c'est uniformisant aussi, et ça invisibilise un certain nombre d'expériences qui n'ont absolument rien à voir ensemble, et c'est à partir de ça, je pense, que c'est basé, enfin que c'est construit ce, cette espèce de féminisme nationaliste quoi en France.
Oui, oui, complètement. On va se, je pense que c'est déjà donc un réflexe néocolonialiste. Et puis depuis le début, de toute façon, de, des mouvements féministes des années 60, déjà il y avait des espèces de conflits entre les femmes, les féministes blanches et les féministes noires qui se sentaient complètement exclues de certaines revendications, notamment quand les femmes blanches se plaignaient du paternalisme des hommes blancs. Les femmes noires disaient, mais nous, le paternalisme, non, nous, on ne nous tient pas la porte, on ne nous dit pas, on va vous aider à porter les affaires, et pourtant, on est des femmes aussi, donc c'est très bien que vous luttiez contre ça, mais on veut aussi se sentir un peu plus inclus.
C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à ce que j'ai lu, ce que j'ai lu notamment dans Angela Davis, qui revient sur la notion de maternité, et le fait que les féministes... en fait, blanches, se sont beaucoup battues pour la reconnaissance, pour justement lutter contre l'injonction à la maternité. Et ce que dit Angela Davis, elle dit oui, mais nous, en tant que, donc là, on est dans le cadre de l'histoire des États-Unis et de l'esclavage, mais nous, en tant qu'ex-esclaves, on nous a jamais reconnu le statut de mère. Le statut de mère nous a été toujours dénié, étant donné qu'on a toujours été approprié par le maître. On n'a jamais pu constituer de famille, parce que de toute façon, nos familles, on les détruisait en permanence. On nous vendait à un autre maître. On était séparés de nos conjoints, etc. Donc on n'a jamais pu construire cette notion de famille. Cette notion de famille, elle ne fait pas partie de notre histoire. Et ça peut être aussi intéressant. Enfin, là, on est dans l'histoire des États-Unis. Et encore une fois, c'est vrai qu'à chaque fois que on pourrait parler de Black féminisme, on en revient toujours aux États-Unis qui ont beaucoup plus construit ces discours-là. Mais bref, c'était pour rebondir sur ce que tu disais avec.
Il y a d'ailleurs dans les années 80. Bon, c'est encore né aux États-Unis, mais c'est complètement pertinent n'importe où, un mouvement qui s'appelle le womanism, et en fait c'est du féminisme mais qui croise systématiquement les questions de race et de genre. C'est vraiment un féminisme qui s'inscrit complètement dans une volonté interculturelle plus orientée afro-américaine, parce que ce sont des afro-américaines qui l'ont théorisé, mais qui est vraiment inclusive de toutes les cultures, subcultures, etc. Et pour revenir donc à un exemple français très très concret, récemment, donc, on a entendu parler de des insultes racistes qu'a pu subir Christiane Taubira. Et il y a Paul Lomami qui retrace sur son blog une anecdote, une discussion Facebook assez affligeante, mais que j'ai pu voir aussi, où j'ai vu des choses de cet ordre-là sur les réseaux sociaux. C'est des féministes qui expliquent qu'avant d'être racistes, ces insultes étaient sexistes, parce Guenon...
Je l'ai lu aussi, voilà.
Guenon, c'est féminin, donc c'est une insulte sexiste, et puis que le vrai ennemi, c'est le patriarcat, c'est pas le racisme. Oui, mais non, en fait, des fois, et effacer le racisme au profit du sexisme, c'est aussi une violence, et c'est aussi quelque chose qui est pas correct du tout pour les personnes qui vont vraiment se prendre ce racisme-là, ce macaque, ce singe. C'est quand même quelque chose de complètement affligeant et de complètement violent. Et que les alliés viennent nous dire, non, mais moi aussi je le subis, moi aussi je suis une guenon, non, c'est pas vrai.
Puis c'est complètement, c'est pas que c'est contradictoire, mais c'est contre-productif de vouloir hiérarchiser. Absolument. Entre eux. Les enjeux de telle ou telle lutte et de hiérarchiser qui... est-ce que c'est plus sexiste que raciste? Ça n'a vraiment aucun intérêt au final. Le problème, c'est que ça a été dit, ça croise ces deux rapports de domination-là.
C'est d'abord raciste, ça c'est évident. Ouais. Mais la référence au singe, quoi, je veux dire, il faut quand même être...
si ça avait été un homme...
Ça crève les yeux, quoi.
Oui, c'est ça, c'est que ça aurait, si ça avait été un homme, c'était directement raciste.
Est-ce qu'on lui aurait jeté des bananes, quoi?
Moi, je pense que oui.
Après c'est une question qui est pas extrêmement pertinente, je pense, parce que c'est pas le but de savoir est-ce que oui ou non ça se serait passé de la même manière, mais il y a un mélange des deux, justement, je pense.
Ouais, mais je pense qu'il y a une prégnance quand même de...
Enfin bref, là, on est en train de faire exactement l'inverse.
On est en train de faire l'inverse, mais oui, et justement, ça questionne sur la hiérarchisation, comme tu dis, à mon avis, des luttes, puisque... à partir du moment où on considère une certaine oppression doit être surplombante en fait, et surplomber les autres et structurer en fait, être une espèce de superstructure pour ensuite analyser les autres oppressions qui sont après tout qui lui sont je vais dire inférieur, c'est ridicule, c'est pas le terme, mais bon, on a compris. Ça peut poser vraiment de gros problèmes. Je prends encore un exemple historique parce que voilà, mais encore chez Angela Davis, hein, vous allez dire, je suis un peu obsédée par elle, mais où elle parle justement de l'histoire des luttes pour le vote, le droit de vote aux États-Unis, le droit de vote pour les Noirs après l'abolition de l'esclavage et le droit de vote pour les femmes, parce que ni l'un ni l'autre n'avait le droit de vote. Alors, il s'avère qu'il y a quand même des personnes qui sont à la fois femmes et noires, comme on sait, et donc du coup, les associations féministes de femmes au début étaient très solidaires des associations pour la libération noire, et elles se sont de plus en plus été laissées influencer par les discours eugénistes de l'époque, et on finit par, en voyant qu'en fait peut-être qu'on n'allait pas leur donner le droit de vote immédiatement, on de plus en plus exclu les femmes noires de leur association, et ont cautionné un discours raciste absolument dégueulasse en disant que la priorité c'était le droit de vote aux femmes. Et à partir du moment où cette rivalité s'est cristallisée également un racisme d'une violence, c'est vrai, quand on lit les extraits de leurs discours, c'est vraiment, enfin, c'est du racisme bien, bien lourd, quoi. Et bien fin 19e. Et voilà. Et du coup, c'était juste pour rebondir par un exemple historique. La hiérarchisation des luttes est vraiment un gros problème. Et je pense que c'est ce qui peut-être remettre en cause parfois, ou du moins questionner, les pratiques non mixtes. Enfin, jusqu'à un certain point, évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, je sais pas si je suis pour la non-mixité ou pas pour la non-mixité, c'est pas la question, mais c'est vrai que ça peut-être questionner aussi, c'est-à-dire que finalement quand on ne cesse de questionner la non-mixité, on ne sait plus non plus d'où on part et comment est-ce qu'on se situe, mais est-ce que finalement se désolidariser par exemple des hommes de couleur, jusqu'à quel point c'est bien, en tout cas, je pense que ça peut être quelque chose qui soit questionnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je propose juste qu'on mette une petite chanson. On rebondit dessus juste après. On va vous passer Angel Eyes, qui est donc une chanson qui s'appelle Same Love, qui était un choix de Clémy, et qui, si j'ai bien compris, est une reprise de...
d'un morceau de Macklemore, voilà, donc qui parle d'homosexualité, de coming out et de la façon dont le milieu, l'industrie musicale du rap US peut être très antipathique par rapport à ces questions-là.
Voilà, on vous le passe. À tout de suite.
Mother knew I wasn't straight. She didn't understand, but she had so much to say. She sat me on the couch, looked me straight in my face, and said, "You'll burn in hell or probably die of AIDS." It's funny now, but at 13, it was pain to be almost sure of who you are and have it ripped away. And I'm sorry if it's too real for some of you to fathom, but hate for who you love is not exactly what you'd imagine. And I guess it was disastrous, 'cause everything that happened afterwards was just madness. Locked away for 2 years to keep me on the inside, because she'd rather see a part of me die than me thrive. And it's tougher when it's something you can't deny, and ignorance teaches us it's something that you decide. You're driven by your choices, an optical illusion. Here's to understanding that it's not always confusion.
And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. She keeps me warm.
girls in my school, and I've seen kids hide behind walls and footballs and things like pride. I've seen innocent children suffer beneath bruises, suffer beneath every single hand that chooses. Ignorance, fuck your religion, fuck constitutions, fuck superstitions. There are no lakes of fire, we're here on earth, and the only thing to do is put love first. And so I stand for the boy who died by his hand to the sound of his father screaming, woman loves man. This is Adam and Eve, not Adam and Steve. And I stand for the girl with the cuts up her sleeve and a heart in her hand and that chip on her shoulder. And I stand for it all until ignorance is over. This is for you, for knowing who you are, for never letting your magic outside of your heart. Be you, be brave, and understand that things do change. I accept you for you when I don't understand, and I love you for you, 'cause this is who I am. I accepted you for you when I didn't understand. Now love me for me, 'cause this is who I am. Message to the people who just don't get it. Love is love, there is no difference. Not a medication to fix it, there is no prescription, no rehab to visit. It is not an addiction, it's love, and it's selfless. It's yours and everybody else's. So don't badger and abuse the solemnly defenseless. See us as yourself, there's no equality and difference. Until we all get it, we'll be drowning in the same blood. Despite orientation, we all feel the same love. We'll be drowning in the same blood. Despite orientation, we all feel the same love. Boxed in and labeled before we're ever able to speak who we believe we are or who we dream will become, like drum beats forever changing their rhythm. I am living today as someone I had not yet become yesterday, and tonight I'll only borrow pieces of who I am today to carry with me to tomorrow. No, I'm not gay, no, I'm not straight, and I sure as hell am not bisexual. Damn it, I am whoever I am when I am it, loving whoever you are when the stars shine and whoever you'll be when the sun rises. So here's to being able. Here's to love. Here's to loving just because. Here's to acceptance. Here's to never fearing the fear of rejection. Here's to love and never neglecting who it is you feel you are. Here's to bullies, because beatings cannot last forever. Here's to the moment that you realize things do get better. Here's to the parents who will get it when it's too late. Here's to second chances. Here's to new fate.
Et voilà, nous sommes de retour. On va rebondir sur... Je ne sais plus de quoi on parlait juste avant. Mais en gros, on s'était dit qu'on pouvait essayer de justement parler d'antisexisme et antiracisme maintenant. Et comment finalement ne pas tomber dans des pièges qu'on aime nous tendre en nous posant des vieilles questions polémiques qui reviennent toujours dans les médias, quoi, par exemple. Et comment, en étant féministe, ne pas tomber dans des pièges et devenir raciste en voulant nous faire dire des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire d'ailleurs, et en voulant de nous qu'on donne des réponses à des questions qui n'en ont pas, par exemple. Je pense notamment à tout ce qui est la question du mariage forcé, toutes les pratiques type excision, etc. Ou bien le voile, hein, ça recoupe ce genre de choses. C'est juste que sur le voile, on en a parlé beaucoup plus. Je pense qu'on sait, tout le monde sait plus ou moins comment se positionner maintenant. Si on essaie de lire un peu, tout de suite, tout de suite, on trouve nos réponses, quoi. Mais comment, du coup, aborder ces questions ou ne pas les aborder, ou comment ne pas tomber dans du néocolonialisme en voulant aborder ces questions-là, tout simplement.
Ouais. En fait, on avait là, on, à mon avis, on découvre et on, comment dire, on tâtonne, je pense.
Voilà, c'est ça.
Mais enfin, moi, enfin, mon réflexe, je le dis en toute honnêteté, c'est du coup d'éviter d'en parler, c'est de pas y penser parce que je ne sais pas quoi dire dessus, parce que je me sens complètement extérieure à ces questions, que j'ai jamais parlé à des jeunes filles qui ont vécu. Qui ont subi ces pratiques, et je pense que c'est, à mon avis, hein, le premier truc que j'aurais à dire là-dessus, en tout cas la première chose qui me vient, c'est pas une réponse, c'est un fragment de réponse parce que ça n'est pas suffisant, c'est que ce sont des pratiques qui sont utilisées comme polémiques, qui sont grossies, qui deviennent qui sont grossies comme représentation d'une communauté. Alors on ne sait pas vraiment qui elle recoupe. Est-ce que ça déborde les frontières françaises, ou est-ce que ça les déborde pas? Est-ce qu'on parle déjà là, on est déjà dans un espèce d'amalgame complètement, oui, homogénéisant, et voilà. Et donc et on ne sait pas aussi. C'est comme pour la prostitution, c'est-à-dire que les chiffres, en fait, on les connaît pas. On n'en sait rien. On les connaît pas, les chiffres. Ensuite le féminisme, c'est aussi prend des sujets qui sont n'est pas un militantisme victimisant, c'est-à-dire que il faut trouver des moyens d'intégrer des sujets qui ne sont pas, comment dire, faut pas être dans un logique, comme tu disais, Clémy, tout à l'heure, de sauver des personnes qui nous sont extérieures. Le féminisme se construit avec les sujets, enfin c'est avec les sujets qui le construisent en permanence, et c'est pas un discours sur des sujets qui lui sont extérieurs. Du coup, si le féminisme n'a pas encore n'ont pas encore intégré, du moins dans une certaine forme d'intersectionnalité, ces discours-là, à mon avis, c'est qu'ils sont tellement utilisés comme objet du discours, dans un certain discours institutionnel, comme figure au poussoir, même si c'est un peu annexe, c'est comme la question des mariages blancs qui ont été utilisés dans le cadre du sarkozysme, pendant la période sarkozyste, comme un signe de manipulation par ce qui est quand même assez fou, par les personnes étrangères, des pauvres Français qu'ils manipulaient, alors que franchement, moi, si j'avais à me marier, je mariais pour donner la naturalité, enfin pour pouvoir donner à quelqu'un la possibilité d'avoir la nationalité française, enfin bref.
Mais c'est, oui, je trouve que c'est très juste ce que tu dis sur le fait que on ne doit pas choisir à la place des personnes excisées si elles doivent lutter et comment elles doivent lutter et avec quelles armes. Je pense que quand on se pose la question, et c'est vachement bien de se poser la question de comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça sans avoir un point de vue paternaliste ou maternaliste, je ne sais pas. La première chose à faire, je crois, c'est de laisser la parole aux personnes concernées, vraiment. Et c'est quelque chose que je mettrai jamais suffisamment l'emphase là-dessus, que ce soit pour, encore une fois, le voile, la prostitution, laisser parler d'abord les personnes concernées au quotidien par ces sujets-là. Et après, bien sûr, vous pouvez soutenir, c'est bien aussi, mais d'abord...
Mais en fait, c'est bien qu'on en parle, parce que du coup, je me suis rendu compte aussi d'autres implications. Et je me souviens d'un truc dont on avait parlé quand on avait parlé du voile, et d'un article en particulier sur la construction de la... sur la construction de l'homme musulman ou quelque chose comme ça, je sais plus, je connais plus la référence de l'article, malheureusement, et comment finalement il y a un certain nombre de stéréotypes qui viennent nourrir cette image, qui est une image repoussoire, comme tu disais. Et là, c'est en fait, finalement, ça revient dans la même logique.
C'est exactement la même chose. Ouais.
Vouloir nous faire aborder ou vouloir aborder ces thématiques-là, finalement, c'est construire un autre qui est pas inférieur, mais qui a pas progressé aussi vite que nous, l'homme blanc ou la femme blanche. Donc en fait, c'est de nouveau réitérer ce rapport de domination de l'homme blanc ou de la femme blanche là en question sur les autres personnes, et c'est construire, voilà, c'est ça, l'image de la femme du tiers-monde, c'est ça dont vous voulez parler. Un article que j'avais lu de Chandra Mohanty, voilà, c'est ça, qui est professeur aux États-Unis d'origine indienne ou indienne, je ne sais plus, et qui aborde très bien ces questions là aussi, et elle disait qu'il y avait cette construction de la femme du tiers-monde qui était dans tout le tiers-monde exactement la même personne opprimée par le paternalisme. Voilà, c'est ça, exactement. Et sans prendre en compte les diversités d'espace-temps, quoi, en gros. Et je sais plus pourquoi je dis ça.
pour rebondir.
Mais voilà. ça me fait penser à, je me dis que ça pouvait être intéressant pour multiplier un peu les façons d'intervenir dans l'émission. Hein, en fait, je suis en train de lire Frantz Fanon, Les damnés de la Terre, et il y avait un article qui, enfin un passage qui m'intéressait parce qu'il était un peu en lien avec toutes ces questions de, comme tu dis, Clémy, pour reprendre des termes que tu utilises, de maternalisme et paternalisme néocolonial ou postcolonial, selon, enfin bon, bref. Et donc, dans ce passage-là, donc c'est les années, je resitue très très vite, fait Frantz Fanon, Les damnés de la Terre, c'est 1961, et en fait, Frantz Fanon peut être considéré, enfin, j'espère pas dire des énormités, mais comme le théoricien majeur du nationalisme décolonial, on va dire, je sais pas si c'est vraiment la bonne appellation, mais en gros, voilà, quoi, pour, qui a fourni un matériau théorique ultra important pour les études postcoloniales. Et donc du coup là il y a un extrait sur cette forme de, comment dire, d'interventionnisme qui est accueilli par les colonisés comme quelque chose, comme une bonté en fait de la part de l'ex-colonisateur, et montre la, comment dire, la perversité de ce système en fait qui perdure encore aujourd'hui. On s'est à ce point habitué au mépris de l'occupant, à sa volonté affirmée de maintenir coûte que coûte son oppression, que toute initiative d'allure généreuse, toute bonne disposition manifestée et saluée avec étonnement et allégresse. Le colonisé a alors tendance à chanter. Il faut multiplier les explications et faire comprendre aux militants que les concessions de l'adversaire ne doivent pas l'aveugler. Ces concessions, qui ne sont rien d'autre que des concessions, ne portent pas sur l'essentiel. Et dans la perspective du colonisé, on peut affirmer qu'une concession ne porte pas sur l'essentiel quand elle ne touche pas le régime colonial dans ce qu'il a d'essentiel. Bon, c'est un peu tautologique et tout ça, et c'est peut-être pas exactement dans le sujet, mais... Je sais plus pourquoi du coup je l'ai évoqué, mais voilà. En fait, ça relie avec cette idée de, comme tu disais, construire la figure de l'autre, même si là, bon, on n'est pas exactement dans ces questions-là, mais c'est-à-dire que finalement, une certaine forme de... Si, en fait, finalement, Frantz Fanon dit les colons. Bon, c'est le vocabulaire de Fanon, hein, il écrit en 61. Les colonisés sont remerciés. Remercie le paternalisme occidental dans son intervention généreuse, et de la même manière nous-mêmes on pourrait tenter de reproduire cette idée-là en disant voilà, nous on aimerait bien on construit cette figure de l'autre de notre point de vue d'occidental. Je sais pas si c'était très bien clair.
Si, ça va, t'inquiète pas, Suzanne. Non, mais si, je suis d'accord avec. D'ailleurs, c'est Elsa Dorlin reprend pas mal de fois ses propos dans l'article que j'ai lu. D'ailleurs, que je vais vous donner les références pendant que j'y pense, qui est un très 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 bon article et synthétique et à la fois très, enfin, analytique. Alors, qui s'appelait "Performe ton genre, performe ta race. Repenser l'articulation entre sexisme et racisme à l'ère de la post-colonie." Et donc, et en gros, donc voilà, comme l'indique son titre, j'en profite pour en parler un petit peu. Dans "Performe ton genre, performe ta race", elle fait bien évidemment référence à Judith Butler. Et en gros, elle essaie de articuler à la fois la théorisation du genre de Judith Butler et un autre auteur dont je ne me rappelle Baba, qui s'appelle Baba, voilà exactement. Attendez, je vais vous
Omi Baba.
Voilà exactement. Qui ont parlé de respectivement du genre et du racisme, et en gros elle arrive à articuler ces deux types de théories en parlant de la femme noire aux États-Unis. Donc on l'a évoqué tout à l'heure entre nous sans en parler à la radio. Elle explique comment la logique ségrégationniste et raciste aux États-Unis a créé l'image de la femme noire à la fois ultra sexualisée, avec une sexualité complètement débridée et castratrice de l'homme noir qui en devient un homme passif et qui n'arrive pas du coup à avoir son enfin devenir un vrai mâle dominant, quoi, exactement, et donc à la fois hyper virilisée, puisque c'est elle qui a ce rôle du mâle dominant dans la société noire américaine. En gros, ça c'est pour prendre beaucoup de raccourcis, et du coup je suis perdue. Si, et du coup, comment il y a eu cette image-là qui a été construite de la femme noire et en gros, comment, en fait, elle explique dans cet article-là comment il y a une forme d'injonction pour les personnes racisées ou pour les femmes d'être enfin de performer leur propre genre. Comment finalement performer, bon on va reprendre du début je pense parce que là je vais me perdre sinon. En gros, elle reprend Judith Butler qui explique comment le genre est une performance. Parce que c'est un ensemble de pratiques en gros qui sont toujours réitérées et qui rendent le genre quelque chose de solide, mais qui n'est jamais qui n'est jamais absolu, c'est-à-dire qu'il y a toujours des failles dans le genre. Et par exemple, elle expliquait comment le drag c'était une figure, on va dire, pas en soi subversive, mais qui pouvait subvertir le genre parce qu'il y a pu, parce que du coup c'est une performance malheureuse, elle dit, parce que justement c'est pas une vraie femme qui performe le genre femme, et c'est pas un vrai homme qui performe le, non c'est pas une, un, ouais voilà c'est ça, c'est pas un vrai homme qui performe le genre homme, tu vois. Et en gros, elle expliquait comment il y a cette même notion de performance dans la race, parce qu'il y a une injonction, par exemple pour revenir dans le contexte français, aux personnes de couleur ou je sais pas comment les appeler quoi, il y a une injonction à faire qu'ils se comportent comme ils doivent se comporter en tant que arabe ou noir ou métis, tu vois. Et en gros, comment c'est une forme de performance aussi, comment il y a toujours des failles, comment finalement les gens qui ont pas d'accent ou genre de choses, on leur dit mais en fait tu es plus français que moi ou je sais pas, des trucs du genre quoi, je me perds un petit peu. Et en gros, elle, en reprenant là l'exemple américain de la femme noire ultra sexualisée, ultra virilisée à la fois, comment il y a toujours cette escalade à la performance, à toujours faire plus, et comment finalement les égéries et toutes ces stars de la pop culture, etc., type Beyoncé, Rihanna, etc., sont dans exactement le même type de performance de « je suis la femme hypersexualisée, la plus désirable ». Il y a cette espèce de compétition de « c'est moi la plus désirable », à la fois « c'est moi la plus forte », avec Beyoncé qui est à la fois aussi dans ce truc-là maintenant, dans cette dynamique de « ouais, je suis féministe », en reprenant jusqu'à des propos féministes dans ses chansons, quoi. J'ai été un peu dans tous les sens aussi, je pense.
Mais je crois que c'est une forme en fait d'empowerment qui est particulièrement exacerbée. Et effectivement, tu parlais de soit l'hyperféminité, soit au contraire le côté bonhomme. On l'a complètement dans tout le milieu rap, notamment des années 90, avec les deux figures dominantes du rap féminin, c'était Lil Kim et Missy Elliott. Donc vraiment les deux opposés, ouais. Là, le gros bonhomme qui a un discours sexuel vachement cru, etc. Et puis la nana tout le temps à moitié à poil qui a aussi le même discours et qui sont pas du tout dans le truc de victime noire ou femme, mais au contraire en mode guerrière quoi.
Ouais, cette différence que justement là je trouve que en plus les deux, je pense que c'est la même, enfin on peut dire la même chose. Là elle réemprunte vraiment des codes de la masculinité mais à fond quoi. Ouais. Sauf que par exemple je sais pas moi dans un truc de rap américain tout ce qui est, il y a toujours un caractère sexuel vachement important, et là elles reprennent exactement la même chose,
elles reprennent notamment le terme de bitch à leur propre compte en se définissant comme bitch, genre c'est plus une insulte, c'est comme ça que je me définis quoi. Ouais, tout à fait.
Mais du coup ce que disait Elsa Dorlin, sans vouloir partir, j'espère qu'on est assez clair quand même quoi, c'est que ça nourrit cette logique de racialisation, ça renforce pas forcément le rapport de domination, mais ça renforce cette vision différentialiste, je veux dire, on va dire, entre les blancs et les noirs, ou les blancs et les arabes, quoi. En voulant faire une identité beaucoup plus forte, forcément. Mais est-ce que c'est un problème? Je sais pas si c'est un problème ou pas.
J'allais dire, c'est vrai, c'est ce qu'elle dit, je pense que c'est vrai. Mais après, oui, la question, et j'ai pas de réponse à apporter, c'est est-ce que vraiment c'est un problème, ou est-ce que c'est une façon de se défendre, justement, de cette différenciation qu'on nous impose et qu'on n'a pas choisi? Je veux dire, c'est toujours l'homme blanc qui fait la différence entre lui et les autres. Donc est-ce que, mais je sais pas, je dis pas oui ou non. Vraiment, est-ce que c'est mal, vraiment, de...
Moi, je serais plutôt tendance à être d'accord avec ce que tu dis, parce que, en fait, c'est de la même manière pour tous les fonctionnements du retour du stigmate, quoi. C'est-à-dire que finalement, tu performes à l'inverse ce par quoi t'as été l'image stéréotypée par laquelle on te fige, on te définit, et toi-même, tu décides de te redéfinir par là. Et c'est bien sûr, ça reproduit les catégories, mais ça les déplace aussi, forcément. C'est justement le truc de Butler. La performance, elle déplace toujours, elle est jamais dans l'imitation pure et dure, elle est dans une imitation qui déplace et qui peut-être conscientise, je sais pas.
Ouais, je pense.
Par contre, ça dissimule peut-être ce rapport de domination originel, quoi. Enfin, je suis pas sûre non plus, parce que c'est vrai que si c'est un retour du stigmate, le stigmate est là. Mais je pense que sur le terme un peu plus long que directement, enfin comme c'est pas très visible finalement de dire ouais tu m'appelles bitch et ben moi je suis une bitch, tu vois. Enfin si, c'est un peu ça quand même. Mais je trouve que ça dissimule un peu ce rapport de domination qu'il y avait au départ et qui est problématique.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi et je pense que du coup c'est hyper important de tout historiciser et d'avoir cette conscience de l'histoire de l'histoire du stigmate, quoi, que ce soit le stigmate raciste ou le stigmate sexiste.
Bon, on va faire une petite pause, vous mettre une dernière chanson. On a parlé de Beyoncé justement, on vous met Run the World et oui. Et on revient tout de suite.
Business. You better not play me. Oh, come here, baby. Hope you still.
On est de retour sur J'enrage, donc c'est toujours RCV 99FM et on arrive en fin d'émission. On va revenir très rapidement, enfin on va essayer en tout cas de revenir assez, relativement rapidement sur la notion d'intersectionnalité qu'on a prononcée plusieurs fois depuis le début de l'émission, parce que c'est un concept assez... assez difficile à définir, je pense. Enfin, on va pas en donner une définition d'ailleurs. Enfin, mais on peut le présenter comme étant. Alors justement, on a dit au début de l'émission que c'était pas une addition de différentes oppressions, mais c'est comment on peut amener ça.
Articulation, c'était elle. Bon,
ouais, c'est ça.
Susan a utilisé tout à l'heure.
Articulation ou justement reprendre le terme d'intersection qui se trouve dans le terme. C'est voilà des individus qui. Enfin,
en gros ça suffit pas juste de dire ouais cette personne là elle est racisée et en même temps elle subit le sexisme, parce que c'est pas à mon avis hein, c'est pas suffisant quoi.
L'intersection, ça fait un peu additionnel, ouais.
C'est ça, c'est pas juste en plus tu subis ça, c'est que ça, l'idée de l'intersectionnalité comme l'explique Kimberlé Crenshaw dans son article en 1990, il me semble, je donne une date approximative, qui a lancé ce terme là, c'est l'idée qu'il y a qu'il faut vraiment articuler de façon fine les vécus, enfin ça tout simplement, le racisme, le sexisme, etc., produisent des vécus spécifiques qui ne sont pas du tout, enfin, juste en termes accumulatifs. Après, en fait, en gros, à mon avis, pour avoir une idée plus claire, à mon avis, c'est par exemple qu'il faut fonctionner, parce que c'est une façon très, très théorique de présenter le truc. On voit pas forcément ce que ça produit. On avait pas mal parlé, on n'a pas du tout parlé pendant l'émission de la drague de rue, mais justement on parlait de ce truc un peu, ce lieu commun féministe de dire la drague de rue, etc., tout en finalement invisibilisant le fait que en fait le sexisme ordinaire très très souvent évoqué eh bien souvent est articulé en fait finalement avec les représentants du sexisme. Eh bien, c'est qui? Bah ça va être le garçon arabe, justement, pour reprendre le terme Nassira Guenif sous les masses. Et voilà, et donc c'est rester attentif à finalement le fait que le sexisme soit peut-être pas l'oppression structurante pour tous les rapports de façon
hégémonique ou supérieure,
ouais, c'est
plus prégnante, ouais. Ouais, oui, donc par rapport au harcèlement de rue, justement, une des choses que je trouve intéressante, c'est que bon, il y a eu d'abord le documentaire de Sophie Peters qui a fait beaucoup de bruit, et je trouve que c'est très bien qu'on en parle, hein, c'est un sujet intéressant. C'est toujours, j'ai l'impression, ou en tout cas souvent, des points de vue donc de blanches, qui ont tout à fait le droit d'être entendues, je n'ai rien contre ça encore une fois, mais moi je sais, j'habite dans un quartier plutôt chic, hein, dans le Vieux-Lille, c'est surtout des blancs, hein, qui me harcèlent dans la rue, dans mon quartier en tout cas, et très souvent la drague est très souvent raciste, alors pas forcément en mode sale négresse, mais plus j'aime tes fesses de noir, j'adore les métis, ah oui, tu es chaude, tu as ça en toi, enfin ce genre de choses qui sont pas, enfin dont on parle pas beaucoup quand on parle de harcèlement de rue en fait, et c'est quand même assez, c'est des blancs qui me disent ça, c'est pas des hommes noirs ou des hommes arabes, et c'est vrai que j'ai l'impression que cette partie là est complètement passée à la trappe, le fait qu'il y a certaines personnes, et je pense que c'est aussi beaucoup le cas pour les Asiatiques, parce qu'il y a une espèce de fantasme sur la femme asiatique qui est assez partout. Ouais, donc c'est vrai je trouve qu'on n'a pas beaucoup eu ces échos-là. Le fait, la drague de rue peut être super raciste et que le fantasme de la femme étrangère, et d'ailleurs, c'est forcément un truc qu'on se prend à chaque fois.
Oui, du coup là, il y a une espèce de relation, il y a une espèce de balle qu'on se relance, quoi. D'un côté, il y a un certain féminisme qui est raciste, qui va dire oui, toute la drague de rue, c'est les rebeux des quartiers, ouais. Populaires, quoi. Mais toi, tu vis tu le vis de l'autre côté, quoi.
Je vis les deux, quoi.
Ouais, ouais.
J'ai de la chance. Bon, voilà. Bon, après, je pense que les blanches aussi se font draguer par des blancs, hein, mais je pense
que c'est pas
juste
la question.
Un peu plus... Oui, oui. C'est juste que l'injure raciste, elle est... Mm. Ouais.
En tout cas,
peut-être...
Ouais, vas-y.
Peut-être que finalement, en une phrase, il y a à la fois le racisme dans le féminisme, mais il y a aussi le féminisme pas assez intersectionnel. Enfin, voilà. Ouais. Et je pense qu'on est aussi concernés. Hein. Je pense qu'à J'enrage, on est aussi concernés parfois. Enfin, je veux dire...
On est tous un peu concernés,
on l'est tous,
de toute façon.
Voilà,
ouais.
On l'est tous. C'est pas juste pour pointer un féminisme. Non. Je pense pas à quelqu'un en particulier, vraiment pas. Mais à mon avis, c'est un truc différent, quoi. C'est pas forcément un féminisme raciste, mais un féminisme qui parle principalement de sexisme comme un truc ascendant et prioritaire au... Enfin, voilà. Et peut-être que l'intersectionnalité, elle remet en cause cette question de hiérarchisation, justement, des oppressions.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est un sexisme, là... Enfin, le sexisme qui est mentionné à chaque fois, c'est ce même sexisme-là que seulement certaines personnes vont... dont vont faire l'objet, tu vois, mais pas forcément toutes les femmes non plus. Il y a plein de types de sexisme, et c'est ça le problème de ces discours dominants du féminisme, quoi, en gros. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a des, enfin, on a fini. Ouais. On va vous mettre une dernière chanson et on vous laisse avec Gilles pour My Favorite Thing, votre émission de jazz. À bientôt sur RCV.
Salut.
Salut.
Salut.